Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour son émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un comédien qui a marqué son époque, un comédien qui a tourné 135 films, qui a joué dans 44 pièces de théâtre. Je veux parler de Philippe Noiret. Je rappellerai simplement qu'il a eu deux Césars, un pour Le Vieux Fusil en 1976, l'autre pour La Vie et Rien d'autre de Bertrand Tavernier en 1990. En l'an 2000, il a reçu un trophée spécial au Festival de Cannes. Et ce comédien a marqué assurément sa génération. Il est né en 1930 à Lille. Son père était représentant de commerce. Il a très vite obtenu un poste au Maroc, ce qui fait que les souvenirs d'enfance de Philippe Noiret commencent vraiment au Maroc. Ensuite, la famille s'est installée à Lille avant de déménager à Paris et de s'y fixer définitivement. Lorsque Philippe Noiret évoquait son enfance, aussi bien Philippe Noiret que son entourage, une chose extraordinaire à notre époque, Philippe Noiret a toujours dit qu'il avait vécu dans une ambiance de tendresse, d'amour partagé, au point que lorsque ses parents se sont rendus compte qu'il était un cancre indécrottable, qui n'avait jamais pu s'adapter au rythme scolaire, ils ont dit à Philippe Noiret, écoute, il faut quand même que tu trouves quelque chose à faire. Et Philippe Noiret a répondu, ah ben tiens, je vais faire du théâtre. Dans ce milieu qui était modeste, mais cultivé, de façon exceptionnelle, ses parents ont dit, ben, puisque tu veux faire du théâtre, lance-toi et fais du théâtre. Et c'est ainsi que Philippe Noiret est devenu comédien. Au passage, pour ceux qui auraient remarqué que dans beaucoup de ses films, il porte une chevalière, lui-même raconte qu'en 1946, donc il avait 16 ans, il a demandé à ses parents de lui offrir une chevalière et c'est ainsi qu'il a obtenu cette chevalière. Lorsque Philippe Noiret devient apprenti comédien, il va faire la connaissance de personnalités exceptionnelles, il va devenir ami avec elles et notamment une comédienne assez miraculeuse qui s'appelait Delphine Seyrig. Rappelez-vous, l'année dernière à Marienbad. Pascal de Boisson, qui n'était pas encore l'épouse de Laurent Terzieff. Maurice Garrel. Et il va jouer comme ça des petites pannes, comme on dit dans le métier, des petites pannes au théâtre, d'ici de là, en essayant de faire bouillir la marmite et de survivre. Jusqu'au moment où, en 1951, il a déjà 21 ans. Il descend avec Delphine Seyrig et Pascal de Boisson, il descend en Avignon, camper et assister aux premières représentations de ce qu'on n'appelait pas encore le Festival d'Avignon, c'est-à-dire écouter le TNP. Et là, vraiment, c'est un coup de foudre. C'est Philippe Noiret lui-même qui le raconte. Il voit Gérard Philippe jouait dans Le Prince de Hambourg et il fera tout pour entrer au TNP et le plus extraordinaire, c'est que ça marche. Beaucoup de comédiens à l'époque voulaient entrer au TNP parce que c'était une troupe exceptionnelle où il y avait des gens d'une stature monumentale. Bon, Gérard Philippe, il y avait aussi Sylvia Monfort, il y avait Maria Cazares, il y avait Daniel Sorano. Tous des gens qui, dans le métier, avaient une importance considérable. Et lorsque Philippe Noiret se présente pour devenir élève, pour faire partie de la troupe du TNP, c'est Gérard Philippe qui remplace Jean Villard, qui n'avait pas pu auditionner, qui écoute Philippe Noiret. Et Philippe Noiret, d'ailleurs, avait trouvé un système. Sachant qu'il y avait une centaine de candidats pour entrer dans la troupe, il avait proposé à ses collègues, écoute, si tu veux, je te donne la réplique. Ce qui fait qu'il a donné plusieurs fois la réplique et que Gérard Philippe a eu l'occasion d'entendre Philippe Noiret dans plusieurs rôles. Et Gérard Philippe a dit, bon, il faut que Philippe Noiret rentre au TNP ce qu'il va faire. Il va jouer un répertoire très varié, puisque sur les 44 pièces qu'il a jouées, 20 ont été mises en scène par Jean Villard. Il va jouer notamment dans Macbeth. Alors, attention, surtout si vous rencontrez un comédien, ne dites pas Macbeth, vous dites la pièce écossaise. Macbeth fait partie des tabous des comédiens, on dit que c'est une pièce qui porte malheur. Et Philippe Noiret, en 1951, va tourner son premier film. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est George Wilson qui devait tourner le rôle, George Wilson tombe malade, et Agnès Varda, qui était photographe du TNP, et qui était réalisatrice d'un film, a proposé à Philippe Noiret de jouer. Et Philippe Noiret va jouer dans son premier film, La Pointe Courte, aux côtés d'une actrice connue, Sylvia Monfort. Et ce qui est très étonnant, c'est que Philippe Noiret raconte que lorsqu'il a vu le film, il a eu un choc terrible. Il a eu un choc terrible parce qu'il ne s'était jamais vu de dos. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. Mais c'est vrai qu'un comédien, en général, il se voit en photo, il se voit de face, il ne se voit pas de dos, ce que le cinéma permet de faire. Philippe Noiret continue donc au TNP, il croise Alain Cuny, il joue du Claudel, La Ville. Il joue dans Lorenzaccio de Alfred de Musset, aux côtés de Gérard Philippe. Il joue le duc. Et dans la troupe du TNP à l'époque, il y a une comédienne superbe qui était très prometteuse, une comédienne qui s'appelait Monique Chaumette. Et Philippe Noiret tombe amoureux, fou de Monique Chaumette. Bon, on était mariés à l'époque. Et finalement, Philippe Noiret va vivre avec Monique Chaumette jusqu'à ce qu'ils quittent le TNP tous les deux. Et ils sont restés ensemble jusqu'à la disparition de Philippe Noiret. Et d'ailleurs, Philippe Noiret le dit lui-même. S'il n'y avait pas eu Monique Chaumette, sûrement que je n'aurais pas pu mener à bien ma carrière. Je vous propose un extrait des mémoires de Philippe Noiret. Notre rencontre à Monique et à moi a été une grande réussite, qui nous procure à chacun des sentiments très vifs, de rapports très harmonieux. Cela a marqué et marque toujours notre vie. Depuis le début jusqu'à maintenant, ce fut un bonheur ininterrompu. Et là, je commence à me rassurer un peu, car ce serait bien le diable si ça se gâtait. Monique a toutes les qualités, elle est magnifique, elle est intelligente, gaie, drôle, franche, droite. Elle a un esprit clair, un jugement professionnel sans faille qui m'a beaucoup aidé tout au long de ces années. Sa beauté ne bouge pas parce qu'elle a une ossature admirable, alors sur elle, le temps n'a pas de prise. Je me rends compte maintenant que je me suis marié avec beaucoup d'espoir. Nous menions une vie de saltimbanque, nous sommes restés toute notre vie. Si je n'ai jamais vraiment connu l'angoisse de l'avenir, nous avons toujours eu un sentiment de précarité. Or, le fait d'être à deux pour affronter les éventuelles tempêtes ou difficultés me rassurait. Si je n'avais pas mené cette vie pendant toutes ces années avec Monique, je n'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait. Donc, Philippe Noiret va mener donc une vie personnel, pratiquement sans nuage. Et bien avant qu'il quitte le TNP avec Monique Chaumette en 1959, il faisait déjà du cabaret avec un comédien malheureusement trop rare au cinéma qui s'appelait Jean-Pierre Taras, qui jouait aussi au TNP. Ils ont fait des sketchs au cabaret. Noiret-Taras, c'était un duo qui à l'époque était connu, notamment lorsque Philippe Noiret incarnait Louis XIV et Jean-Pierre Taras incarnait Racine. Et je vous propose d'écouter Les Cabots de Jean-Pierre Taras et Philippe Noiret. «
Et vous êtes allé en tournée récemment?
Oui, je reviens de tournée, j'ai fait un immense périple personnellement. Pontivy, Main-sur-Loire, Nesle-la-Vallée, Dammartin-en-Goële, Carpentras aussi.
Ah, les Berlingots.
Lourdes.
Mais à Lourdes, vous n'avez fait qu'une apparition.
Un aller-retour, oui. Verdun aussi, j'ai terminé par Verdun.
Où ça, les hôtels de Verdun?
Ah, c'est le coup de fusil. Vous connaissez Verdun?
Oui. J'ai triomphé 100 fois à Verdun.
Non.
Oui. Dites-moi, on joue toujours à la salle Saint-Joseph?
Ah non, on joue à la salle de l'Immaculée Conception.
C'est bien équipé ce truc.
C'est parfait, mais ça n'est pas très gai, n'est-ce pas?
Et puis, qu'est-ce que vous jouiez?
Mon récital. Mon récital est Cinna.
Cinna?
Oui, de Corneille.
Oui, merci, je sais. Mais qu'est-ce que vous jouiez donc dans Cinna?
Polyclète.
Polyclète. Ah, je vois. C'est cet esclave affranchi
qui dit au deuxième acte, vous y êtes, tous vos ordres, Seigneur, seront exécutés.
C'est pas commode, ça.
C'est extrêmement délicat, Jean-Pierre, d'autant plus qu'il ne fait que ce... Il ne dit que cela pendant les cinq actes.
Ah, que ça?
Ah oui, c'est son seul vers, c'est son vers unique, c'est son vers...
Solitaire?
C'est pas bon, ça, Jean-Pierre, ça fait rive droite. Oui. Alors, si vous voulez en faire quelque chose de très condensé.
Oui, il faut le ramasser, ce vers.
Voilà.
Il faut le prendre de loin.
Voilà.
Vous le preniez de loin?
Ah, de très très loin, du fond du plateau. Est-ce que je peux y aller?
Oui, mais je vous en prie.
Je voudrais mimer ça. J'arrivais dans un immense élan tragique, en retenant mon péplum de la main gauche jusqu'au trou du soufflet. Et d'ailleurs, c'est là que le soir de la première, je me suis foulé la cheville.
Comment ça?
Eh bien, en arrivant avec cette énorme autorité que je confère à mes personnages, j'arrive donc au trou du souffleur et à son là, paf, je tombe dedans.
Paf, vous tombez dans le
trou
du souffleur. Quel accident bête.
Oui, alors à ce moment-là, s'élève de la salle, évidemment, un immense cri d'angoisse.
Ah tiens, et pas un rire?
Pas un sourire, non, pourquoi? Ça n'est pas drôle.
C'est vocal.
Ah, la souffleuse hurlait, simplement, sous prétexte que je l'écrasais légèrement. Enfin, je me dégage, et le régisseur fait une annonce. Mesdames, messieurs, monsieur Noiret est indemne.
Dieu merci.
Merci, Jean-Pierre. Nous allons pouvoir reprendre la représentation.
Alors,
en revanche, s'élève de la salle à ce moment-là un énorme cri de satisfaction.
Ah.
Oh.
Ah.
Oui.
Et vous avez repris.
Ah, immédiatement.
Du même endroit.
Ah non, d'un peu moins loin.
Ah, c'était prudent.
Je pense. Alors, j'arrive donc cette fois-ci beaucoup plus prudemment.
Sur la pointe des cotures.
Exactement, jusqu'au trou du souffleur. Oui. Et à ce moment-là, paf, le trou.
Et allez donc, c'est une manie. Vous n'arrêtez pas de plonger.
Non, le trou de mémoire.
Oh, quel accident de bête.
Mais le trou noir. Alors, je fais signe à la souffleuse, j'appelle du pied, que croyez-vous qu'elle me dit, la vache?
Eh bien, syndicalement, elle doit vous envoyer votre verre. Tous vos ordres, Seigneur, seront exécutés.
Eh bien, pas du tout, Jean-Pierre, pas du tout. Elle me dit, voilà, on n'apprend pas, alors on ne sait pas.
Quelle mesquinerie!
Quelle petite gens!
Mais c'est minuscule!
Oh, c'est tout petit!
Mais quand vous me disiez votre verre, Philippe, car vous me disiez de temps à autre tout de même.
Ah oui, je n'ai eu un trou que trois fois.
Vous l'avez joué souvent?
Six fois.
Ah, c'est bien, vous le disiez une fois sur deux, en
fait. Exactement.
C'est honorable.
Je pense.
Comment le faisiez-vous?
Je le gueulais.
Oh, c'est passionnant, ça fait de voir.
Je peux vous le faire, une chose comme ça, très dans le masque, très envoyé, n'est-ce pas? Tous vos ordres, Seigneur, seront exécutés.
Vous avez perdu quelque chose?
Non, c'est un geste d'autorité.
Vous le faisiez nerveux.
Crispé, oui. C'est un affranchi, je le fais timbrer.
C'est un affranchi.
C'est pas bon du tout.
Et à part vous, bonne distribution.
Oh, des amateurs, Jean-Pierre. J'avais confié Auguste, vous savez. L'empereur Auguste, à mon excellent ami Gaëtan Rose.
Oh,
et bien, je dois avouer que dans ce rôle, il fut franchement mauvais.
Ça ne m'étonne pas.
Mais mauvais.
Ça ne m'étonne pas. Ah, si, je l'ai vu bien une fois.
Oh, dans quoi?
Dans l'autobus.
Oh, c'est son meilleur rôle.
Émilie, qui vous jouait Émilie?
Émilie, c'était une petite starlette assez célèbre l'année dernière.
Bon, moi, ça va si vite, ces carrières.